Welcome to the GAC Files, a podcast about the people, issues, and ideas driving Global Affairs Canada.
Bienvenue dans les dossiers d'AMC, un balado sur les personnes, les défis et les idées qui animent Affaires mondiales Canada.
And now, introducing your host, Global Affairs Canada's David Morrison.
Et maintenant, présentant votre hôte, David Morrison d'Affaires mondiales Canada.
Sébastien Beaulieu is one of Global Affairs' most entrepreneurial leaders. He is a former HOM in Tunis, who is also one half of an employee couple that is taking turns being head of mission. So when he found himself headed back to the Middle East a year ago as a trailing spouse, he was entrepreneurial enough to invent a role for himself as Canada's executive coordinator for Syria. Sébastien and I recently chatted about the prospects for Syria and the wider Middle East, as well as his efforts to advance Canada's diversity and inclusion agenda. Hi, Sébastien. Thanks for coming in today. You are currently the executive coordinator for Syria. That's a title that no one else has ever had, I think. And so I'm interested in how that came about, since you actually live in Lebanon, where your spouse is the head of mission. Mais avant de parler de tous ces thèmes, je voudrais savoir où t'es né et comment t'as décidé d'avoir une carrière dans le fonction publique.
Merci beaucoup, David, de m'avoir invité à cette expérience en médias sociaux et avec le podcast. Ouais. Ça fait plaisir d'être ici ce matin.
C'est balado en français.
Bon, merci des précisions. Ça fait 20 ans que je suis au ministère. Ouais. Et puis avant ça, je suis né et j'ai grandi au Nouveau-Brunswick, ouais. À Moncton plus précisément. Je suis le troisième enfant d'une famille de cinq et ma mère dit que c'est ça qui m'a prédestiné à une carrière en diplomatie. Étant le troisième de trois enfants, je faisais souvent la paix entre mon frère et ma sœur.
Ouais. Okay,
je pense qu'il y a d'autres explications plus scientifiques à mon parcours, mais on pourra explorer ça au courant de la journée.
Mais ta famille avait un aspect ou des perspectives internationales? C'était prédestiné que...
Non, en fait, j'ai grandi toute ma vie à Moncton. Mes parents étaient professeurs à l'université. Okay. Ceci dit, c'est une ouverture sur le monde. Et puis, on écoutait...
Mais comme famille, t'as voyagé?
Grâce à un sabbatique de mes parents, j'ai passé une année à Paris dans ma jeunesse.
Okay.
Ce qui m'a certainement donné la piqûre du voyage.
Ouais.
Et puis, dans mes années à l'université comme étudiant, je travaillais au cours de l'année.
Ouais.
Et puis, l'été, je prenais mon sac à dos et je partais à la découverte de l'Europe.
Ah, Europe, OK. Et qu'est-ce que t'as étudié à Moncton?
À Moncton, j'ai fait un bac en économie et sciences politiques.
OK.
Et puis, ensuite...
Mais t'es avocat, je crois.
J'ai poursuivi...
Ouais. OK.
Une formation juridique à McGill en droit.
OK. Et did you write the Foreign Service exam, or how were you always aiming at an international career that was in your sights, or did you consider being a paid up private sector lawyer?
Public service was always in my career goals, and actually I was going to start with an articling position at the Department of Justice until I wrote the Foreign Service exam. I sought to defer my entry into the Foreign Service. I spoke to personnel.
And they said,
sure, you'll just have to write the exam next year.
Yes.
And you may not be as successful as you've been this year. So I took my winning ticket. And I actually articled at Global Affairs.
At Global Affairs.
Bureau.
Okay. both you and your spouse, Emmanuel Lamoureux, who, as I alluded to at the beginning, is currently our HOM in Lebanon, are Foreign Service officers. Did you join together? Or within the same year or so?
Close to it. She joined when we were on our first posting in Geneva after a few contracts with international agencies. She studied in international affairs as well.
Moncton?
So, at Nipsia.
Okay.
Ottawa here at Carleton University. Okay.
So I think you've had joint postings in Geneva, Paris, anywhere else?
In Tunis. Tunis. We've also managed to make reconcile both our careers.
So I guess that's what that aspect is what I think sort of makes your case not unique, but. But interesting is that you joined the Foreign Service at roughly the same time. You have quite successfully managed two upwardly mobile careers. You have both been HOMs. You were a HOM in Tunis, and Emmanuel is now the HOM in Beirut. I think that would suggest that you are alternating, but just talk to us a little bit. And you have three children, so parlons-nous un petit peu sur le balance travail-vie et le alternation entre CDM et CDM et.
Les gens nous taquinent effectivement souvent en disant ben c'est quoi vous prenez des tours à être ambassadeur pour le Canada. C'est un peu ça, c'est un peu aussi un partenariat. C'est une relation qu'on a entre nous où on s'appuie l'un l'autre.
Parce que tu avais des gros boulots ici au siège aussi.
Oui.
Les deux.
Et je crois que ça fait partie de réconcilier ce défi quotidien qui est travail-famille avec trois jeunes enfants. C'est pas toujours facile, évidemment, mais il s'agit de partager le fardeau, de partager les responsabilités. On l'a fait comme chef de mission, mais on l'a aussi fait comme parent, en prenant chacun un congé parental pour chacun de nos enfants. En répartissant ça, et je crois que là aussi, les negotiation skills ont été très utiles pour m'assurer d'avoir au moins 6 mois de congé.
I'm not going to ask who, you know, so you negotiate with personnel, you probably negotiate a little bit with your spouse, but it is I think that the challenges of a dual career family are acute in this world that we work in. But trying to do it within the same department is probably being special challenges, but also special rewards. In my view, and Sebastian and I know each other more from the edge of a soccer field than we do as colleagues. Our children play soccer together, but in my view, Sebastian gets Parent of the Year by being the parent volunteer to coordinate the whole team. So I don't know how you guys have pulled it off, but it's quite admirable.
And you mentioned the partnership as partners, but it's also a partnership with the children.
Sure.
In terms of moving abroad and finding and making sure that everybody enjoys the posting and the relation to friends, to the education system. That's also a challenge that we manage.
Mais vous êtes ici comme famille presque toute l'année, alors toute l'été. Alors Ottawa, c'est chez toi toujours.
Oui, et puis la vie à Beyrouth est trépidante et excitante, et très agréable. Mais l'été, c'est aussi une occasion de renouer avec la ligue locale de soccer, avec les amis, avec la famille, les grands-parents, et puis la verdure et un climat un peu plus acceptable.
Ouais, ouais. Tu es ici maintenant pour 2 mois, je crois, et Emmanuel a des responsabilités à Beyrouth. That gets us into a little bit about your current role. For those listening, I think that Sebastian has proven himself innovative and entrepreneurial in creating a role for himself, if I understand it correctly, that didn't exist before. The role, as I said at the outset, is executive coordinator for Syria, which probably does have some kind of job description, but has essentially been created around you on the notion that you as a senior official in EX2 can play a valuable role from the region, given that we no longer have a functioning embassy, that you can work out of. Talk to us a little bit about how that role came about. Did you have to push? What do you do every day? How do you have a team? Do you travel? What's it like to be the executive coordinator for Syria?
Well, it's a very interesting job and a job description as well. came out of the fact that we don't have an operating embassy in Damascus. Mm. And I think the need for such a position was also made clear with our strategy engaging in the Middle East. Canada has a 3-year strategy to respond to the crisis in Syria, Iraq, and the impact in Jordan and Lebanon. So a lot of resources in the field looking at Syria, but also a need to coordinate that and bring it all together on the various pillars. There's diplomatic engagement, but there's also important programming on the development and humanitarian side. There's also a very strong security component to our engagement in Syria and in the region. So my day-to-day job is to bring it together. I'm working with a small team based in Beirut and with someone working in Istanbul as well. Mm-hmm. But I'd say it's also broader than that. It's bringing together our network of missions looking at Syria, whether it's through the Moscow lens, whether it's through the Ankara lens, the Amman, Beirut, Paris, and Washington, what happens at the UN in Geneva and New York. Right. So trying to coordinate and to be a point of contact for all those.
Are you sort of the Canadian face on the file? Are you're the fellow that goes to the meetings and liaises with the partners?
I'm certainly one of them, but at all levels we have people right. engaging with the international community. Right. Up to the Prime Minister.
What do you... I know you don't have a crystal ball, but this is turned into one of the great, certainly humanitarian crises since the Second World War. It is the follow-on impacts of what began in Syria are being felt certainly throughout Europe, but in a certain sense, some of the recent electoral outcomes in Europe, some of the domestic issues in Europe that have risen to the top can be traced back to the crisis in Syria and the outpouring of refugees. What's your assessment of how this ends, or how this gets contained? Are you optimistic?
Je crois que pour faire ce travail-là, ouais, David, ouais. faut rester optimiste, ouais. Malgré le fait que c'est une tragédie ouais. humaine incroyable,
ouais,
effectivement.
Ouais.
et que c'est un casse-tête aussi de géopolitique extrêmement complexe. Ouais. Il y a évidemment la Syrie, mais il y a toute une série d'autres acteurs étatiques et non-étatiques. L'Iran, la Russie, la Turquie, ses voisins avec Israël, le Liban et la Turquie et la Jordanie. Les États-Unis, évidemment, ont un rôle clé comme à la tête de la coalition.
Mais c'est plus fragile maintenant qu'il y a 2 ans?
Je pense que ça reste très fragile. Les gens sont fragilisés. C'est un pays en lambeaux après plus de 7 ans de combat et de guerre, de destruction. Mais je crois aussi que ça a des répercussions bien au-delà de la région ou du pays. Au Liban, le Liban qui accueille plus d'1 million de réfugiés, c'est-à-dire le quart de la population est d'un réfugié syrien. C'est incroyable. Et que ce pays-là réussisse quand même à fonctionner témoigne d'une résilience incroyable.
Et les enfants, ils sont, je crois, dans les écoles du pays, quoi. Ça doit être très difficile pour les services sociaux au Liban.
Tous les services publics au Liban, en Jordanie, sont sous un stress immense.
Et le Canada aide.
Le Canada, ça fait effectivement partie de notre rôle de contribuer à la résilience des communautés qui accueillent ces réfugiés-là en aidant les services, les services publics, y compris les écoles. Et parce plusieurs écoles ont deux shifts par jour.
Parce qu'avec le 40 000 réfugiés qu'on a acceptés ici au Canada il y a quelques années, il y avait des défis, quoi. Mais au Liban, c'est presque impossible.
C'est une autre magnitude, une autre
échelle. Est-ce qu'il y a des tensions sociales?
Il y a des tensions sociales, il y a aussi certaines tensions politiques qu'on va ressortir dans l'actualité aussi. C'est le retour des réfugiés est une question très épineuse. Le HCR indique que les conditions sont pas réunies pour des retours volontaires, dignifiés et sécuritaires. Ceci dit, un certain nombre de réfugiés décident d'entreprendre le retour en Syrie malgré les risques, mais c'est certainement une crise qui perdure et qui se fait sentir.
Et le rôle qui joue le Canada est reconnu?
Le Canada est un des 4e ou 5e bailleurs de fonds dans la région.
Après les États-Unis?
Après les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne, les grands bailleurs de fonds.
Et on travaille avec la Banque mondiale et des autres partenaires comme ça?
On travaille beaucoup avec l'ONU et les agences de l'ONU, mais aussi avec des organisations internationales, des ONG internationales qui sont présentes sur le terrain pour livrer l'assistance, notamment humanitaire, en Syrie.
Il faut être optimiste, mais les défis sont tellement grands. Let's switch up a little bit because I want to ask about diversity and inclusion. I learned in doing a little bit of research for this podcast that while you were home in Tunisia, you flew the LGBTQ flag over the embassy, and that was, with the exception of Israel, that was the first time that had happened. Talk to us a little bit about that and how or what it's like for Canada to pursue a progressive agenda in parts of the world where that's more challenging than it is in other parts of the world.
Je pense que la promotion, merci de la question, parce que c'est un sujet qui me touche à cœur, comme Canadien, mais aussi comme fonctionnaire canadien et comme diplomate canadien. Je crois que la question de la diversité et de l'inclusion est une responsabilité qui nous incombe à tous. Et dans un contexte où j'étais ambassadeur en Tunisie, effectivement, de provoquer un peu la conversation autour des droits LGBTQ était importante. Et une façon qu'on a trouvé de le faire, c'était avec l'aide des médias sociaux et du drapeau, provoquer, créer, susciter une conversation. Ouais. Évidemment, on était nerveux. Ouais. L'homosexualité est un crime en Tunisie, encore, et dans bien des pays dans le monde, y compris dans la région. On était un peu nerveux avant de faire l'expérience.
Et c'était un jour spécial?
C'était la journée contre l'homophobie, le 17 mai 2015. On était nerveux, mais en même temps, on était conscient que c'était mûr pour une conversation.
Ouais.
On a lancé ça sur les médias sociaux avec, encore une fois, de trépidation à savoir est-ce qu'on va devoir intervenir.
Ouais.
Et finalement, ça a été une conversation très robuste pour et contre. Mais c'est aussi une conversation qui s'est auto-modérée.
Ouais.
On n'a pas eu besoin d'intervenir.
Sur les médias sociaux.
Sur les médias sociaux.
Ouais.
Et puis, ça s'est retrouvé dans les médias traditionnels aussi. Exact, ouais. Et ça fait discuter. Notre rôle, je crois, quand on fait de la promotion des valeurs canadiennes et des droits de la personne, c'est pas nécessairement de faire consensus, mais c'est de faire avancer le débat et la discussion. Et je crois qu'avec des initiatives comme celle-là, on réussit.
Ça nous rend fiers comme fonctionnaires, je crois. Talk to me about ta rôle avec l'Université de Victoria. J'ai jamais compris comment Sébastien Beaulieu pourrait être fonctionnaire canadien et aussi professeur adjoint à l'Université de Victoria avec un compromis grand. Autrefois sur la diversité et inclusion.
Oui. Quand on travaille à l'étranger, on travaille avec les universités canadiennes à faire la promotion de l'éducation au Canada. Et lorsque j'étais en Tunisie, j'ai travaillé étroitement avec l'Université de Victoria qui avait des projets, des programmes en Tunisie. À mon retour, on m'a...
Quelle sorte de programme et projet?
Un programme avec la Banque mondiale sur le leadership et la formation du leadership pour...
Des cadres,
du secteur privé,
et public, OK.
Pour promouvoir la transition démocratique post-révolution. Et puis, ils faisaient du recrutement aussi. À mon retour au Canada, ils m'ont proposé une idée novatrice que d'être professeur associé. D'emblée, je clarifie que ce n'est pas rémunéré, premièrement.
Et parce qu'on avait Heather DePent, Values and Ethics. Alors.
donc, ça fait partie de mon rôle en tant que diplomate
pas de
et fonctionnaire.
Conflit d'intérêt.
Pas de conflit d'intérêt là.
Ouais.
Et puis, je n'ai pas une charge de cours fixe non plus. Je vais à Victoria quelques fois par année, habituellement pour 4 ou 5 jours. Et puis, je sers de ressources pour l'université tout au cours de l'année sur des questions internationales, pour leurs activités internationales, de réseautage, par exemple, les mettre en contact avec nos missions pour leurs activités. Je rencontre les professeurs, je participe à des cours bien précis. Je vais parler du conflit israélo-palestinien, par exemple, dans un cours au niveau de la maîtrise sur le Moyen-Orient. Et un élément, je crois, qui est important aussi, c'est le contact avec les étudiants.
Ouais.
Des conseils en matière de carrière, et tout le monde, beaucoup sont intéressés par la diplomatie. Alors, beaucoup des questions que j'ai tournent autour de comment est-ce qu'on devient diplomate, comment est-ce qu'on joint au ministère.
Ouais.
Et en fait, à ce niveau-là, j'ai une belle histoire à leur raconter qui, je crois, que leur donne espoir. Moi-même, quand j'étais étudiant à l'Université de Moncton, il y avait un ambassadeur en résidence.
Ouais. C'était qui?
Arsène Després,
okay.
Que j'avais rencontré quelques années avant d'écrire l'examen. Et j'avais parlé de la carrière diplomatique, qui m'avait encouragé à postuler. Et ce qui est intéressant, c'est que 15 ans plus tard, je lui ai téléphoné.
Ouais, exact.
Et j'étais dans le poste qu'il avait occupé précédemment comme ambassadeur du Canada en Tunisie. Alors, je raconte cette histoire-là à l'Université de Victoria ou à quiconque veut l'entendre, que c'est possible.
Ça se peut.
Et il y a des débouchés pour ce qui est de carrière internationale.
It's extraordinary, and it's really one of the reasons why I wanted to do this podcast, because I'm personally fascinated in people's trajectory and what is the reason they're doing what they do, what were the influences or the forks in the road. And just an anecdote on my side, growing up in Lethbridge, Alberta, no one had ever suggested public service. Didn't really know what that meant, certainly not the federal government, until one day when I was in grade 11 or 12, Flora MacDonald, Canada's first female foreign minister, came to town and spoke at my high school. And I don't remember anything about what she said. She was the foreign minister at the time. Don't remember anything she said about foreign policy. But I do remember that she ended her remarks by urging us to consider careers in public service. Mm-hmm. And that, as I think back to the choices I've made, that was one of the reasons. So going into universities, talking to students and telling them what is possible, or in your case, showing them that in 15 years you could come back as an ambassador I'm sure makes a difference. Tell us a little bit about the conference that you helped, the conference on diversity and inclusion that you helped catalyze at the University of Victoria.
Well, I wanted to wanted to have a project and put forward a project of an activity with the University of Victoria. And we came up with this idea of a major conference on promoting diversity and inclusion, both in Canada, but also abroad. So taking advantage of Canada's 150th, we thought that was a good time to take stock. So we did it along a number of pillars, from a trade policy. We looked at it from a trade perspective. We looked at it from a Indigenous peoples perspective, from a climate change and environmental perspective. And we successfully brought together a few former prime ministers, current senators, leading academics, activists, and politicians from Canada, as well as public servants from both provincial and federal levels, to have a 3-day conversation across all these themes on how we can do a better job at inclusion and diversity, and also looking to make the case beyond the moral imperatives of diversity and inclusion, but also making the case given the broader geopolitics at play and some efforts at closing doors as opposed to opening them. Showing that diversity and inclusion is, in fact, an asset for Canada.
I think you're being slightly humble. This conference was a really big deal with some very heavy hitters, and as Sebastian has just said, at a critical time where the progressive agenda that Canada is trying to advance around the world is running into some pretty strong headwinds that frankly need resisting. So, Sebastian, you're an inspiration in that, in addition to a very very active and successful professional life, you find time to be the soccer parent coordinator. You find time to be an adjunct professor at the University of Victoria, pursuing very valuable agendas. You find time to be a very active parent. I think you're an inspiration to students and others as well. Alors, merci beaucoup pour être ici aujourd'hui, et bonne chance en Syrie.
Merci beaucoup, David, et ça a été un plaisir de m'entretenir avec toi aujourd'hui.
OK, merci.
We hope you enjoyed today's discussion. If you have feedback or suggestions for future topics or guest speakers, please send David an email.
Nous espérons que vous avez apprécié la discussion d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant de sujets futurs ou de nouveaux conférenciers, veuillez envoyer un courriel à David.
Thank you for listening, and we look forward to you joining us on the next episode of The GAC Files.
Merci d'avoir écouté le balado, et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour le prochain épisode des dossiers d'AMC.